Les cafés sont bien remplis. En passant devant, on entend de la musique, des cris, des discussions. Des discussions rageuses. Ce sont des gens sales, exaltés.
Je te dis qu'avec 4 bières, ça ne sert à rien.
Mais arrête pas,
toi.
Pour moi,
4
pour que je t'en
avec complète.
Oh là, et la 25, c'est bon pour les Olympiades.
Tu vas pas
en vitesse, c'est plein de
Didier s'aperçoit aussi qu'il y a très peu de voitures qui circulent. Elles sont sales, font de drôles de bruits, comme si on leur avait mis une espèce de produit bizarre pour remplacer l'essence. Les voitures en stationnement semblent complètement abandonnées. Les transports en commun, car par exemple, sont peu remplis et ont eu aussi un côté mauvais état. La chaussée a des trous et défoncée par dégradation naturelle et bagarre. Il y a plein d'immondices dans les rues. Les poubelles ne sont vidées qu'une fois toutes les 3 semaines. Ça déborde de partout et les gens n'hésitent pas à déposer sur la chaussée leurs vieux meubles. Il y a un laisser-aller général, tout le monde se fiche de tout et personne ne commande. Au fur et à mesure que l'heure passe, la ville sent de moins en moins bon. Avec la température qui augmente, la pourriture aussi. Les quelques rares passants ressemblent à des clochards. Didier a l'impression de revenir d'un autre monde. Il se demande où étaient les gens et les lieux qu'il a quittés. Peut-être était-ce un rêve, mais il sent dans sa poche les billets que lui a donné Galien. À Lyon, il continue à marcher dans les rues pour pouvoir s'imprégner de son univers, pouvoir le retenir, le sentir avec ses points de repère. Il se dit qu'il va aller du côté de la Saône, que c'est peut-être plus calme. Il y va. C'est la même chose, mais il retrouve les quais. Cela le tranquillise. Enfin, un point de repère qu'il connaît bien. Cette zone pas très belle, toujours aussi grise, mais avec ses vieux quais et ses ponts. Il décide aussi d'aller voir la gare Saint-Paul, vieille gare qui, depuis des lustres, ne sert pas à grand-chose. Il aime bien cette gare. Elle ressemble vraiment à une vraie gare de petite ville à l'échelle humaine. Il y passe quelques trains ou plutôt ce qu'on appelait des machines de banlieue, qui donnaient l'illusion de départ en vacances pour quelques sous et peu de temps. Il entre dans la gare. Le hall n'est pas très grand, mais propre. Il ressemble encore à un vrai hall de gare et non à un hall de sécurité sociale ou centre des impôts. L'on se croirait dans un autre temps où l'on pouvait prendre le train comme ça, sans réserver ni se bousculer. La gare n'a pas de clodo et la dégradation générale ne l'a pas touchée. Pourquoi ? Peut-être par respect pour cette petite chose hors du temps. Il n'y a personne au guichet, le tableau d'affichage est vide. Didier se dit, les trains ne passent peut-être plus par ici. Si elle est abandonnée, pourvu que des cons ne la prennent pas pour la squatter et la dégrader avec leur graffiti et leur merde. Il va jeter un coup d'œil au quai. Il jette un coup d'œil sur le quai, il est vide, mais rien n'a été enlevé, comme si on attendait un train. Cela donne envie à Didier de prendre le train, d'aller s'enfoncer dans la campagne avec lui. Surtout qu'on ne la démolit jamais, cette petite gare. Elle va très bien avec le quartier, elle a une bonne échelle. Surtout qu'on ne la transforme pas en autre chose, qu'elle reste bien une gare. Même s'il y a très peu de trains qui s'y arrêtent. Didier, après avoir regardé le quai, s'apprête à quitter la gare. Entre dans la gare une silhouette d'homme. Il est dans la lumière. Il est grand, porte un vieux, une vieille redingote, des bottes, un chapeau large, et une barbe avec une moustache. En broussaille. Il s'avance vers Didier. Didier voit qu'il doit avoir dans les 40 ans, le visage déjà ridé, le haut du crâne dégarni, ses vêtements sont sales et gris. L'homme lui dit, il n'y a plus de train. Didier lui dit, je sais. Je suis venu comme ça parce que j'aime bien cette gare. Tu es comme moi. Mais moi, je suis venu pour voir qui tu étais. Eh bien, tu le vois, je suis moi. C'est-à-dire, et toi, moi, c'est Marc. Comme le président, peut-être le suis-je, lui. On ne sait jamais dans ce monde où nous vivons. Les vivants sont morts, les morts sont vivants. Et toi ? Moi, je suis Didier, vivant. Tu en es sûr ? Oui, en tout cas pour le moment. Tu sais comment tu es Dieu ? Je ne sais pas. Dieu me laisse tranquille, alors moi aussi je le laisse. Il veut l'être plus fort que lui. Tu n'as rien à craindre. Si Dieu est Dieu, il est plus fort qu'eux. Ça, c'est lui qui le dit. Didier soupire et s'apprête à partir. Le cul demande, où vas-tu ? Nulle part. Je suis chez moi de partout. Eh bien, viens chez moi. Pourquoi ? Pour me tenir compagnie, fumer et boire. Et puis, tu verras, comme je me suis bien logé, viens. Didier réfléchit et lui dit, oui, je veux bien. Et il suit l'homme. L'homme lui demande, qu'as-tu dans ton sac ? Des vêtements de rechange. Didier suit Marc. Ils sont dans le vieux Lyon, arrivés rue de Doyenné, à un immeuble qui fait face au pont et à la primartiale Saint-Jean, où se trouve au rez-de-chaussée un café. Marc va ouvrir la porte de l'immeuble. Entre, c'est ici. Didier entre. L'allée est une allée de vieils immeubles repeintes et propres. Il y fait frais à cause des murs très épais. Il monte les altes escaliers de pierre jusqu'au deuxième étage.
Là, Marc pousse une porte palière qui n'était pas fermée. Entre. Ils entrent.
C'est un appartement, couloir sombre et long. À gauche, belle cuisine, grande et carrée, avec des meubles en bois clair. Il y a une fenêtre qui donne sur la rue. À côté de la cuisine, les WC. À droite, une grande pièce, aussi grande, qui sert de salon. Un peu plus loin, une chambre avec fenêtre sur la rue. Pièce rectangulaire et très longue. À gauche et à droite, deux autres pièces qui semblent être des chambres. Ça paraît grand, tout semble en ordre, calme. Didier demande à Marc, c'est ici que tu habites ?
Oui, si tu veux. Tes locataires ont abandonné le logement. Par peur, une nuit il y a eu une bagarre immense. Ils ont paniqué et la mère et le fils sont partis en laissant leurs meubles et tout. Ils sont allés loger dans une ferme qu'on leur a prêtée des amis de la Croix-Rousse. Or, moi, je viens dormir ici. Si tu veux, tu peux venir ici. Il y a de la place, comme tu peux le voir. Oui.
Didier retourne à la chambre qui est à côté du salon. Il y a un lit à une place, une grande chaîne ici. Postes de radio de toutes sortes, des BD et des livres de mathématiques ou sur les étoiles à terre. Sur le mur ou le lit, où est le lit, il y a des tas de cartes postales de tout horizon. Galien a convoqué à son bureau d'Amphore et lui dit
« J'ai un service à vous demander.
Je vous écoute, monsieur. »
« Voilà, vous savez que Didier nous a quittés ce matin. »
« Oui, monsieur. »
« Eh bien, j'aimerais c'est que vous puissiez le faire surveiller discrètement et l'aider à chaque fois qu'il en a besoin. Je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Vous m'avez compris ?»
Oui, monsieur, et vous pouvez compter sur moi.
Bien, et s'il lui arrive quelque chose, vous me prévenez.
Oui, monsieur.
et dans la chambre qu'a prise Didier.
Il ouvre son sac en plastique et il trouve des vêtements.
Des feuilles de papier qui sont vierges et qui sont dactylographiées.
Il s'assoit à terre
et lit, surpris.
Qui était sorti pour chercher à manger revient. Il trouve Marc assis à terre, à côté de son sac, en train de lire des feuilles.
Il lui demande : qu'est-ce que tu fais ?
Marc lève la tête et lui dit : tu vois, je lis. C'est drôlement intéressant. Où tu as eu ces feuilles ?
Marc lui dit : ce sont des feuilles que j'ai prises pour me servir de brouillon.
Tu me prends pour un con ?
Non, je t'assure.
Marc lui dit : il y a de quoi casser la baraque là-dedans.
Didier hausse ses épaules et lui dit : qu'est-ce que tu racontes là ?
Tiens, lis.
Didier s'assoit à terre et lit.
Il téléphone à Galien dans une cabine qui est encore en état.
Bonjour madame, j'aimerais parler à Galien Diap.
Je suis Didier.
Bien. Merci.
Allô Galien, c'est Didier. J'ai quelque chose de très important à te montrer. Des papiers. C'est très important. Ça va t'ouvrir les yeux. C'est très urgent. Viens le plus vite possible. J'ai peur qu'on me les vole. Rue du Doyenné. Au numéro 5. Deuxième étage à droite. Bon, je t'attends. Oui, ça va. À tout de suite alors.
Galien sort en vitesse de son bureau. Il va vers la secrétaire.
J'ai besoin de ma voiture de toute urgence.
Bien, monsieur.
Et il court pour sortir de l'immeuble. Monsieur D'Enfort le voit courir et lui crie :
vous avez besoin d'aide ?
Non, merci. Plus tard, peut-être.
En bas, la voiture l'attend. Il entre dans la voiture, donne l'adresse où il doit aller.
ils arrivent à Lyon. La voiture s'arrête à l'adresse, c'est-à-dire rue du Doyenné. Et Galien entre dans l'immeuble. Il monte jusqu'au deuxième étage.
À la porte de droite, il sonne. Deux fois. Vois que la porte est ouverte. Il entre. Y a quelqu'un ? Pas de réponse.
Il entre et suit le couloir en regardant dans les pièces. Pas de bruit. Arrivé devant une chambre, il voit couché à terre, les bras en croix, Didier. Didier ! Il se penche. Didier le touche. Didier ne réagit pas. La gueule à la gorge serrée. Mon Dieu, Didier, lui aussi. Il le retourne et voit qu'il y a un grand trou rouge au milieu du front. Le visage pâle, les yeux grands ouverts, la bouche aussi. Mon Dieu, Didier, ce n'est pas possible. Si tu savais comme je t'aimais, mon petit. Il le prend dans ses bras, le baise, l'enlace, puis le dépose. Je te vengerai, mon petit, je te le jure, mon pauvre ange. Mon Rimbaud à moi. Il l'embrasse encore une fois. Regarde autour de lui. Il voit un sac en plastique à côté, en désordre, avec ses vêtements. Mais pas de feuilles. Avant de sortir de l'appartement, il fait toutes les pièces. Il est retourné vers la voiture et dit au chauffeur « Téléphonez de suite à Danfort, qui viennent me rejoindre de toute urgence ici. »« Bien, monsieur. » Et Galien retourne veiller son ami. Il s'est assis à terre, près de lui, et se dit qu'il aimait ce petit. Qu'est-ce qu'il voulait me dire de si important ? Il avait sans doute dû trouver quelque chose, mais quoi ? Il a voulu m'aider, et moi je ne connais rien de lui. M'a-t-il dit son nom de famille ? D'où vient-il ? Je ne sais rien de lui. Au nom de sa mémoire, je dois me renseigner. Je t'aime, mon petit.
3 heures plus tard, Danfort est là. Il a pris l'avion. Didier lui montre le corps et lui dit:
je vous avais dit, monsieur Danfort, c'est de faire en sorte à ce qu'il ne lui arrive rien.
Je suis navré, monsieur, mais nous n'avons pas pu le retrouver aussi vite. Mais vous,
il m'avait téléphoné. Il voulait me voir de suite. Paraît-il qu'il avait trouvé quelque chose qui voulait me montrer que c'était d'une importance capitale et pour cela que je suis venu ici. C'est terrible, monsieur Danfort. Je l'aimais beaucoup. Que devons-nous faire ?
Danfort lui dit : vous allez retourner à Paris de suite et ne rien dire.
Je m'occupe de tout.
Vous ramenez le corps à Paris ?
Je crois qu'il serait mieux qu'il reste à Lyon, je veux dire.
Et sa famille ?
Quelle famille ?
Je ne sais pas.
Moi non plus. Il fait partie de ces jeunes qui traînent comme ça. Et voilà ce qui leur arrive la plupart du temps.
Didier lui dit : lui, c'était pas la même chose. Il voulait me protéger et me prévenir. Lui devant un grand respect et préserver sa mémoire.
Oui, je comprends, monsieur. C'est comme s'il faisait partie de notre groupe et qu'il est venu nous aider.
Oui, et il a dû trouver quelque chose qui nous mettait en danger.
Bien, nous respecterons sa mémoire.
Pour cela, je veux c'est que vous preniez soin de son corps et fassiez une enquête d'où il venait, famille, etc.
Bien, monsieur.
Danfort regarde autour de lui et lui demande :
à qui appartenait cet appartement ?
Callien lui dit : je crois à une femme et un fils. Son fils devait beaucoup aimer les BD et les étoiles, en tout cas.
Danfort regarde autour de lui et lui dit :
et les volcans ?
Il soupire et lui dit :
monsieur, il me faut vous quitter et rentrer à Paris. Ne dites rien à personne.
Bien. Qu'allez-vous faire du corps ?
Ce que l'on fait d'un corps. Quelle tristesse. Il était bien joli, ce petit.
Et attachant aussi, Danfort.
Oui, je comprends. Maintenant partez.
Callien se penche, embrasse le front de Didier.
Et sort de l'appartement.
Une fois dehors, il entre dans la voiture et dit au chauffeur : nous retournons à Paris.
Bien, monsieur.
Et le chauffeur a mis la voiture en route.
lendemain matin, à son bureau, Galien reçoit Danfort.
Voilà, monsieur, la chose a été faite.
Qu'avez-vous fait du corps?
Vu les circonstances, je l'ai fait enterrer dans un champ, mais avec un cercueil et tout le respect dû au corps. J'ai aussi fouillé l'appartement et l'immeuble. Dans l'appartement, je n'ai rien trouvé de spécial, sauf un bout de papier qui était sur le lit de la chambre où était le corps.
Et ce papier?
Il est à l'entête de la société et des signes à d'algèbre, d'après ce que j'ai compris. Je l'ai ramené et l'on fait des recherches. J'ai fait une enquête aussi sur l'homme qui squattait l'appartement. Chez les voisins, des gens du quartier, un homme étrange, un Marc. On ne sait pas grand-chose. Il venait, avait des idées bizarres, n'aimait pas trop travailler et traînait une philosophie nihiliste.
Sait-on où il est?
Non, pour le moment, mais nous cherchons.
Bien.
Et vous cherchez du côté des origines du petit?
Oui, monsieur, mais il faut attendre un peu. Et ce sera sûrement difficile, car il y a beaucoup de jeunes qui traînent comme lui.
Dès que vous avez quelque chose, faites-le moi savoir. Et pour ce qui est du secret qu'il voulait me dire?
Là non plus, mais nous cherchons aussi.
Bien, merci.
Le temps passe.
Galien pense souvent à Didier, et depuis son départ se sent seul. Il aimerait que Philippe vienne vivre avec lui. Il lui a écrit, mais Philippe refuse toujours.
Il a peut-être raison,
car lui aussi, il risque quelque chose. On peut lui vouloir du mal.
Un jour, Danfort vient le voir dans son bureau.
Nous avons eu la chance, nous avons retrouvé la famille de Didier.
Galien est surpris. Comment?
En inquiétant, tout à fait par hasard, dans le quartier du Marais, chez les commerçants et les concierges, un bureau de tabac a reconnu sa photo. Il nous a dit qu'il le connaissait depuis longtemps.
Il m'a même donné son nouvelle adresse.
L'adresse de sa famille. Ils habitent à Montparnasse, dans un vieil immeuble. Sa mère vit seule. Son mari l'a quittée depuis des années, mais elle a un ami qui vient de temps en temps. Le petit Didier ne voulait pas de son nouveau beau-père. C'est pour cela qu'il a quitté la maison.
Vous avez dit au sujet de son fils?
Non, et je vous conseille de ne pas le faire. Il ne faut pas le dire.
Mais elle va croire qu'il est toujours vivant.
Et alors, c'est peut-être mieux pour elle. C'est terrible pour une mère d'apprendre la mort de son fils.
Oui, je comprends. La famille est pauvre?
Pas très riche.
Il y a des frères, des sœurs?
Une grande sœur.
Que fait la mère?
Elle fait des ménages.
Bien, je vous remercie.
Je vous conseille, monsieur, c'est de ne pas chercher à les voir.
Pourquoi ? Cela risquerait de vous apporter des ennuis.
Laissez-le en paix. Le petit est mort. C'est bien regrettable. Mais nous n'y pouvons rien. Galien lui dit.
Un soir, j'ai rencontré une personne qui venait de perdre son mari et son petit garçon dans un accident de voiture. La mère me connaissait et savait ce que faisait notre société. Elle s'est mise dans la tête que j'avais le pouvoir de faire revivre son petit garçon. Ai-je le pouvoir de le faire ?
L'enfant lui répond.
Cette femme était ridicule, folle. Personne n'a le pouvoir.
Galien lui dit. Même avec leur ADN ? L'enfant lui dit.
Même avec leur ADN, même avec toutes les formules, les chimies, personne n'est capable de redonner la vie. Parce qu'en réalité, personne ne sait vraiment ce que c'est la vie.
Galien lui dit. Oui, mais nous connaissons de quoi est fait les êtres vivants.
Cela n'est pas tout. Vous prenez un récipient, vous mettez tous les produits chimiques dont sont faits les hommes avec les bonnes doses. Cela ne fait qu'un liquide informe qui ne donnera pas la vie. La vie, c'est autre chose. Quelque chose qui est en plus de ce que nous sommes chimiquement et physiquement. Et cette chose, nous ne savons pas ce que c'est. C'est comme le cerveau. Nous savons, et nous arrivons à savoir comment il fonctionne, ses réactions, mais pas ce qui le fait fonctionner.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.